L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs seulement.
Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Nicolas.
Et après son adoption par le Sénat, l'Assemblée nationale doit examiner la proposition de loi organique visant à reporter les élections provinciales en 2026. Et pour en parler ce matin, vous recevez Virginie Rufnacht.
Virginie Rufnacht, chef du groupe Rassemblement au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir sur l'actualité politique et législative, particulièrement dense et qui concerne directement la Nouvelle-Calédonie, avec effectivement l'adoption par le Sénat la semaine dernière de la proposition de loi organique sur le report des provinciales. Une adoption sans surprise, c'était attendu. Hein.
Oui, enfin, c'était attendu. Vous savez, en politique, rien n'est fait tant que ce n'est pas fait. Hein. Et donc,
la majorité était très large quand même.
La majorité, au final, était très large. Il y a eu un travail important fait par notre groupe, Mathieu Darnaud, les Républicains du Sénat, le président du Sénat, pour finalement qu'il y ait un travail avec l'ensemble des groupes politiques du Sénat. Seuls, effectivement, les communistes et les écologistes n'ont pas adopté cette réforme. 299 voix, effectivement, sur 340 votants, grosso modo, c'est très, très large. Et ça assoit le fait que le Sénat est véritablement dans une dynamique d'accord pour la Nouvelle-Calédonie. Il le défend coûte que coûte. D'ailleurs, les propos de Gérard Larcher ce matin, qui dit oui à Bougival, le confirme à nouveau. Ils savent bien, au travers de notre histoire, que le mieux pour la Nouvelle-Calédonie et les Calédoniens, eh bien, c'est un accord.
Alors, la proposition de loi doit maintenant être transmise à l'Assemblée nationale. On dit que le débat va être plus compliqué. C'est quoi le rapport de force aujourd'hui ? Est-ce que on est assuré d'avoir une majorité pour ce texte ou non ?
C'est très serré, un peu à l'image de la motion de censure qui n'a pas été adoptée, mais à 18 voix près. C'est très serré, puisque en fin de compte, nous avons évidemment tout la LFI, les communistes, les écologistes, qui sont contre le report des élections provinciales, parce qu'ils suivent en fait les indépendantistes les plus radicaux en Nouvelle-Calédonie. Finalement, ils ne soutiennent pas cet accord, enfin en tout cas cette démarche d'accord que nous avons engagé depuis des années et qui s'est concrétisé par cette signature de Bougival. Donc aujourd'hui, on est très serré, on fait un travail important. Nicolas à Paris, nous ici, mais en étant à Paris au téléphone quasiment tous les soirs, pour effectivement à la fois mobiliser, au-delà, nous, de notre propre famille des Républicains de l'Assemblée nationale, d'autres groupes politiques avec lesquels nous avons des échanges. Alcide Ponga et moi-même, vendredi soir, nous étions encore en visioconférence avec Arthur Delaporte, le chef de groupe socialiste, pour expliquer les choses et bien faire comprendre que...
Vous avez une chance de convaincre les socialistes ?
Oui, tout à fait. Je pense que les socialistes sont, comme ils l'étaient au Sénat, puisque le groupe socialiste du Sénat a voté le report, ils sont sur cette ligne eurocardienne qui est l'accord pour la Nouvelle-Calédonie. Nous, on essaye de faire comprendre que le vrai passage en force serait de forcer les électeurs calédoniens à aller maintenant sur une élection sur un corps électoral gelé, c'est ça le vrai passage en force, plutôt que de permettre de peaufiner, d'affiner et d'aller au bout de l'accord conclu à Bougival.
La France insoumise, on est sûr qu'ils vont voter contre le report ?
Oui, absolument, c'est une certitude. C'est une certitude qu'ils voteront contre le report. Les socialistes, donc, de ce que nous dit leur chef de groupe, est engagé à voter pour le report, ainsi qu'évidemment les Républicains, et puis le parti Renaissance, en fait, du président de la République, et Horizon également votera le socle commun, on va dire, vote
et,
pour.
Et les communistes voteront contre.
Les communistes voteront contre. Vous savez, ce matin, il y avait en commission qui va se tenir cette nuit pour nous, la commission des lois, c'est à 16h30 à Paris, donc cette nuit à 1h30 du matin pour nous, il y a 23 amendements qui sont déposés essentiellement par Bastien Lachaud, donc les LFistes, les communistes et puis aussi les écologistes, et qui, ces 23 amendements, pratiquement tous vont dans le même sens, la suppression du report des élections provinciales et donc vider le texte de toute substance. Et ça veut dire que notre député Nicolas Metzdorf aura une forme de dos croulé à contre-courant à faire à Paris pour travailler à faire en sorte que ces amendements soient rejetés. Puis mercredi soir, ça sera le débat sur le texte, et c'est là, en débat, que véritablement nous essayons de mobiliser tous les députés que nous avons autour de nous pour s'opposer à ces amendements et soutenir le texte.
Alors la position, on a vu à peu près tous les groupes, il reste le Rassemblement National, et c'est pas un petit groupe, et le parti de l'UDR, le parti d'Éric Ciotti. Quelle va être leur attitude ?
Alors écoutez, moi j'ai eu à nombreuses reprises Éric Ciotti, qui est un fervent défenseur du dégel du corps électoral et de la démocratie en Nouvelle-Calédonie. Je pense qu'il... Il travaille à ce que ce texte puisse être reporté et surtout, il a un allié aujourd'hui qui est proche de lui, qui est le Rassemblement national. Moi, je ne peux pas imaginer que le parti de Marine Le Pen vote contre le report, ce qui contraindrait les Calédoniens à nouveau à avoir des élections sur un corps électoral gelé. C'est antidémocratique. Donc, nous avons aussi des contacts, évidemment, avec l'entourage de Marine Le Pen et Marine Le Pen elle-même.
Alors, je sens où en est le Rassemblement national, parce qu'on sait qu'elle avait trouvé... qualifié d'ambigu, l'accord de Bougival, on voit bien que ce n'est pas vraiment le texte qu'elle aimerait voir passer pour la Nouvelle-Calédonie. Elle va voter ou non le report des élections provinciales ?
Ben, nous, en tout cas, nous essayons de lui faire comprendre deux choses. La première, c'est que ça n'est pas parce qu'on vote le report que forcément la révision constitutionnelle ne peut pas être amendée. Et s'il y a des éléments qu'elle souhaite modifier, il y a tout le travail parlementaire qui le permet en réalité. Et elle pourra faire porter sa voix et marquer sa position, notamment sur la révision constitutionnelle. Mais là, tout de suite, dès mercredi, s'opposer au report des élections provinciales, c'est tuer toute capacité d'accord pour la Nouvelle-Calédonie. Et c'est dire, on va aux élections provinciales avec le corps gelé et on verra en 2027 la suite. Et on ne peut pas laisser les Calédoniens dans la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous engageons Marine Le Pen et son mouvement à ne pas voter contre ce report des élections provinciales qui fermerait toute porte à un accord pour la Nouvelle-Calédonie.
Si des amendements sont adoptés, vous dites qu'il y en a beaucoup qui ont été déposés par les LFIs. Quelles sont les conséquences ?
Alors, il faut bien faire comprendre aux Calédoniens que le Sénat a très largement adopté ce report des élections provinciales. Donc, report, normalement, les élections devaient se tenir le 30 novembre, donc elles sont reportées à juin de l'année prochaine. Mais le vote doit être conforme entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Donc, s'il venait y avoir des modifications à l'Assemblée nationale, le texte devrait retourner au Sénat.
Mais alors que le temps est compté et que la loi doit être promulguée avant le 2 novembre.
Effectivement, la loi doit être promulguée avant le 2 novembre, mais si jamais les amendements étaient mineurs, nous imaginons bien qu'aucun juge n'attaquerait le fait que ça repasse au Sénat pour ces amendements mineurs. Mais si l'un des amendements de la LFI qui propose la suppression pure et simple du texte, c'est-à-dire annuler le report, venait à passer, vous comprenez bien que ça vide le texte de toute substance et que par conséquent, fort à penser que le processus soit complètement enrayé. Donc nous mobilisons parce qu'il faut bien faire comprendre une chose, c'est qu'au-delà des positions, il faut que les gens soient présents. Vous savez, l'Assemblée nationale, ça n'est pas comme le Sénat. Au Sénat, dernièrement, lorsque le texte est passé, c'était un scrutin public et le chef de groupe, par exemple des LR, a voté pour tout son groupe. L'Assemblée, ça n'est pas pareil. Vous avez une procuration par député maximum et donc il faut véritablement mobiliser dans l'hémicycle. Le vote aura lieu mercredi à 17h à Paris, donc la nuit de mercredi à jeudi pour nous. Et en l'occurrence, le débat commence à 17h. Ça veut dire qu'il risque de se poursuivre peut-être tard dans la nuit. Et vous savez bien qu'à l'Assemblée, plus on avance dans la soirée, et moins il y a de députés. Donc nous faisons un travail. Nous allons écrire, Alcide Ponga et moi-même, à nos députés des Républicains, pour que l'ensemble se mobilise pour soutenir la Nouvelle-Calédonie et les Calédoniens, et qu'ils soient véritablement présents mercredi soir. J'ai eu Laurent Wauquiez, le président de groupe, j'ai eu Michel Tabarot également, et puis évidemment Philippe Gosselin, qui est des Républicains, est aujourd'hui le rapporteur à l'Assemblée nationale, du texte de report des élections provinciales.
Alors, on sait que le FLNKS suivait le maintien des provinciales à la fin novembre. Il l'a dit, il l'a répété. Vous comprenez sa position ?
Non, ça fait des mois et même des années maintenant que nous ne comprenons plus la branche la plus radicale des indépendantistes. Ils envoient des signataires à Paris pour porter une signature sur un accord. Ensuite, ils démettent de leur signature ces mêmes signataires. Finalement, ils n'ont rien proposé. Ces dernières années, ont boycotté la table des discussions pour dire qu'ils étaient contre tout, à part indépendance tout de suite ou dans 2 ans. Aujourd'hui, vraiment, je les engage à revenir dans la position de discussion, car il n'y a pas d'autre voie pour la Nouvelle-Calédonie. Et je suis indignée de voir les propos de M. Théin, qui, non content d'être discret au regard du fait que la justice vient de consentir à ce qu'il puisse revenir en Nouvelle-Calédonie, ce qui heurte un grand nombre de Calédoniens, me brandit la menace pour ce texte, en disant que la violence risque de revenir, et comme vous le soulignez d'ailleurs dans votre chronique, c'est assez étonnant de dire qu'on n'est pas responsable de la violence et des émeutes, et dans le même temps dire que si le texte passe, il y aura à nouveau la violence. Donc vraiment, on ne les comprend plus, il faut revenir à la raison, à une voie de discussion aujourd'hui, c'est indispensable. 80% de la sphère politique calédonienne a dit oui à cet accord et n'a pas remis en cause sa signature. Aujourd'hui, ils doivent revenir pour que nous trouvions les moyens de ne pas tomber dans le tourbillon national d'instabilité qui a démarré depuis quelques mois déjà.
Est-ce que vous pensez quand même, est-ce que les Calédoniens doivent se préparer éventuellement à des élections qui auraient lieu avant fin novembre, c'est-à-dire le mois prochain, dans quelques semaines maintenant.
Écoutez, le suspense va être court puisque dès jeudi matin pour nous, nous saurons. Mais en tout cas, nous faisons tout notre travail pour ne pas arriver. Et non pas qu'on veuille prolonger absolument nos mandats, ce sont des mandats infernaux que nous vivons, très difficiles, mais simplement, ça serait une honte pour la France et la République que des élections se tiennent sur un corps gelé, que tous les efforts consentis avec des heures et des mois de discussion soient réduits à néant par le non-report de quelques mois pour finaliser les choses de cet accord.
Dans sa déclaration de politique, le général Sébastien Lecornu a dit qu'il proposerait par ailleurs de transcrire les accords de Bougival dans la Constitution avant la fin de l'année, c'est-à-dire la réunion du Congrès de Versailles pour modifier la Constitution. Franchement, vous pensez que c'est possible quand on voit déjà le temps que prennent les différents textes ?
C'est une vraie question, Elisabeth, c'est une vraie question. Nous voyons que chaque jour à Paris, ce qui était vrai la veille ne l'est plus le lendemain. Nous voyons bien la faiblesse de l'union qui se constitue aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale, au niveau du gouvernement et de ce bloc commun qui doit essayer d'obtenir un budget pour notre nation, ce qui est essentiel et déterminant pour tous les Français. C'est très fragile. Donc en fait, nous n'avons aucune vision de moyen et de long terme. Et effectivement, l'épreuve du budget sera une épreuve déterminante pour savoir si ce gouvernement peut tenir en l'état aujourd'hui, dans une situation de fin de mandat du président de la République, de fin, je ne vais pas dire de fin de règne, mais complètement chaotique.
Pour revenir au dossier calédonien, est-ce que vous regrettez le départ de Manuel Valls ? Est-ce que c'est un obstacle supplémentaire à la mise en œuvre de Bougival ou est-ce que finalement sa présence n'était pas indispensable ?
Écoutez, je ne comprends pas très bien la stratégie de l'ombre qui a été réalisée sur la non-nomination de Manuel Valls au dernier moment, alors qu'il faisait partie du gouvernement Lecornu-1. Il y a sans doute des règlements de compte qui se sont opérés sur le cas de Manuel Valls, et c'est regrettable, je pense. Non pas que je soutienne les thèses défendues par Manuel Valls, mais simplement, nous avions un interlocuteur qui a travaillé, mis en place l'accord de Bougival, et qui connaissait par cœur ce dossier si compliqué. Nous pensions donc qu'il était opportun pour ne pas déstabiliser le processus, car en fait, finalement, cette fin de cycle présidentiel étant d'une déstabilisation nationale totale. Donc de ne pas déstabiliser le processus calédonien. Bon, Madame Moutchou était quelqu'un d'engagé.
Vous la connaissez ? Vous avez eu contact avec elle ?
Personnellement, le seul contact que j'ai eu avec elle, c'est la visioconférence que nous avons eue en présence de Claire Durieux, du haut-commissaire, au commissariat lors de la réunion de la mission de reconstruction. Mais je l'aurai en visioconférence cette semaine, puisqu'un rendez-vous est fixé, donc je l'aurai directement. Je ne la connais pas personnellement, je vois son engagement pour Bougival et sa volonté à pouvoir, maintenir ce processus difficile que nous avons réussi à conclure. Je constate également qu'elle est accompagnée de collaborateurs qui étaient ceux de Manuel Valls, donc je vois bien que la dynamique est plutôt celle de la continuité.
Avec Laurent Prévost comme directeur de cabinet, c'est quelqu'un qui au moins connaît bien la Calédonie.
C'est vrai, vous avez raison.
Et la présence de Sébastien Lecornu à Matignon, qui lui aussi connaît bien le territoire, que vous connaissez bien d'ailleurs, c'est quand même une bonne chose à votre avis. Est-ce qu'il vous envisagez que ce soit Matignon qui reprenne aujourd'hui en main le dossier calédonien ?
Écoutez, on sait très bien que le Premier ministre est attaché à la Calédonie française, donc beaucoup de Calédoniens ont accueilli cette nouvelle avec optimisme et enthousiasme. Aujourd'hui, hélas, vu l'instabilité de ce gouvernement et national, je serais prudente parce que, encore une fois, vous savez, faire nouer aux gens des espoirs pour qu'ils soient rapidement déçus du fait de cette grande instabilité, il vaut mieux être raisonnable et puis être prudent. Je crois véritablement que il faut sans doute qu'il y ait un équilibre. Et d'ailleurs, Lecornu-Valls, c'était un équilibre au sein du gouvernement dans la gestion de la Nouvelle-Calédonie. Parce que nous avons des indépendantistes très engagés dans le dispositif, c'est l'UNI, PALIKA, UPM. Et il s'agit aussi qu'ils soient relativement en confiance pour pouvoir travailler et que nous finalisions cet accord. Donc, je serai prudente. Nous, là, nous avons step by step, marche après marche. D'abord, cette commission des lois cette nuit, où nous envoyons tous nos encouragements à Nicolas pour battre le fer, mais nous savons qu'il sera à la hauteur. Et puis ensuite, mercredi, cette séance publique fondamentale où véritablement nous essayons de mobiliser à Paris pour que les députés soutiennent la Calédonie, soutiennent l'accord pour la Nouvelle-Calédonie et soutiennent surtout le fait qu'il n'y ait pas d'élection provinciale sur un corps électoral gelé, ce qui interviendrait si les élections étaient maintenues à la fin novembre.
Donc jeudi matin, a priori, on devrait être fixé.
Absolument.
Jeudi matin pour nous, au lendemain de... Enfin...
Sauf sauf si c'est traité en séance solennelle. Vous savez, il y avait une volonté initiale du gouvernement à Paris qu'il y ait le débat mercredi soir sur les amendements, mais qu'il y ait un vote solennel pour mobiliser éventuellement les députés la semaine d'après. Nous ne sommes pas trop favorables à ça, parce que le jeu va se jouer lors de la séance publique sur le rejet, notamment, des amendements LFI qui vident complètement le texte de toute substance et donc annulent le report des élections provinciales.
Cette séance solennelle, qu'est-ce qui peut la décider ? C'est le bureau, c'est la présidente ?
C'est effectivement le bureau de l'Assemblée nationale, la conférence des présidents, qui se tiendra mardi matin à Paris pour nous à 10h, c'est-à-dire à 19h. Donc à 19h, il décide si le vote final sur ce projet de report des élections provinciales se tient dès mercredi, ce mercredi, ou se tient mardi prochain en séance solennelle.
Encore un peu de suspense donc, Virginie Revetac, merci d'accepter cette invitation.
Merci à vous.
Une interview que vous pourrez réécouter et visionner également sur notre site internet le www.rrb.nc.